Je suis très heureux d'accueillir mon ami Frédéric Worms pour la parution de ce livre chez Flammarion, Penser à quelqu'un. Je ne vais pas présenter Frédéric Worms, sauf à vous dire donc qu'il est professeur de philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qu'il est également le directeur du Centre international de philosophie française contemporaine. Il a écrit en effet plusieurs ouvrages sur l'histoire de la philosophie française, en particulier un livre très important intitulé Bergson ou les deux sens de la vie en 2004, et également un autre livre en 2009 chez Gallimard, La philosophie en France au XXe siècle, Moment. Mais aujourd'hui, je dirais que nous le recevons pour sa réflexion plus générale sur la notion de relation. Frédéric Worms, en effet, a développé toute une théorie morale de comme pensée de la relation à l'autre à partir de la question du soin. Il a d'ailleurs publié sur cette question du soin plusieurs ouvrages, Le moment du soin et politique. Mais ce qui est extrêmement intéressant et séduisant dans le livre dont il va être question aujourd'hui, Penser à quelqu'un, c'est que il se propose d'analyser l'acte de penser à l'intérieur d'une théorie générale des relations. Alors, pour le dire d'un mot et pour lancer la discussion avec lui, je voudrais dire très rapidement ce qui fait, à mes yeux, l'importance de son ouvrage. Au fond, la thèse de Frédéric Worms est la suivante. Toute pensée authentique, toute pensée qui peut se développer comme pensée, est en réalité, dans sa simplicité même, une pensée adressée à quelqu'un, une pensée en direction de quelqu'un, une pensée tournée vers quelqu'un, ce qui d'emblée suppose que la pensée ne soit pas considérée finalement comme une sorte d'exercice plus ou moins de décoration superflue auquel on pourrait s'adonner par exemple maintenant entre 18h et 19h pour ensuite mieux y renoncer. En réalité, cela suppose que la pensée, c'est la première thèse de Frédéric, cela suppose que la pensée est un acte vital, un acte, c'est-à-dire que, au fond, la pensée est bien une manière de vivre, une manière de vivre. Dire que la pensée est un acte vital ne veut pas dire, et il faut tout de suite, bien sûr, dénoncer la confusion, ne veut pas dire que la pensée soit un acte biologique, l'expression d'un cerveau, par exemple. Frédéric Worms a beaucoup travaillé sur le livre de Bergson, Matière et mémoire, et sur les relations précisément entre cerveau et pensée. Non, il s'agit plutôt de dire que la pensée est une manière de vivre au milieu des autres, dans le monde, et qu'en tant que telle, elle est une relation par laquelle, au fond, nous, grâce à laquelle nous pouvons vivre. Cette relation, elle suppose fondamentalement de pouvoir s'absenter, en un certain sens, du monde. Et l'une des, peut-être, des thèses qui se retrouve dans l'ouvrage de Frédéric Worms, qui se lit très, très agréablement, parce qu'on peut le prendre par plusieurs bouts, finalement. Il n'y a pas un ordre géométrique, mais plutôt une structure, justement, relativement libre dans l'ouvrage. L'une des thèses qui apparaît véritablement, c'est que cette pensée, au fond, pour penser, encore faut-il pouvoir s'absenter un minimum du monde dans lequel on est amené à penser. Je veux dire que, au fond, si nous sommes pris dans un registre de fascination ou d'effroi par rapport à une chose, si nous sommes capturé par une présence qui s'impose à nous de manière trop forte, au fond, peut-être ne pouvons-nous pas la penser. Pour penser, il faut bien s'arracher, en un certain sens, à la présence pour pouvoir se mettre un peu à distance de ce que l'on pense. Si je veux effectivement penser la beauté, Alors, mais si je suis d'un autre côté complètement captivé par une belle forme qui me fascine, je ne pourrai pas la penser totalement puisque celle-ci sera finalement prise en otage, cette pensée, par la belle forme qui va totalement orienter celle-ci. De telle sorte qu'au fond, penser suppose toujours une forme d'absence. Il n'y a pas d'acte de pensée qui ne soit pas une manière de s'absenter du monde ou de l'objet ou de l'idée qu'elle cherche à penser. Mais en même temps, et c'est le paradoxe que Frédéric Worms met bien en avant, cette façon de s'absenter est en même temps une manière de se relier à. En m'absentant de ce que je veux penser, je me rapporte à cet élément de la pensée. Et ceci est d'autant plus vrai pour la pensée qui concerne une pensée adressée à quelqu'un. Quand je pense à quelqu'un, en son absence, le fait de penser à cette personne alors qu'elle n'est pas là est, au fond, une manière encore de se rapporter à cette personne. Et d'ailleurs, quand nous éprouvons le besoin de dire à quelqu'un « j'ai pensé à toi », d'une certaine manière, nous proclamons que, en l'absence de la personne, notre pensée lui a été adressée. Mais cette proclamation a valeur d'un partage, d'une certaine façon, instaure un partage entre les deux personnes. De telle sorte que la première, je crois, grande thèse du livre de Frédéric est que la pensée est un acte vital en ce sens qu'elle nous permet de nous relier à des sujets, à des personnes, de façon totalement singulière, tout en étant séparé d'elles. Et peut-être que pour penser à quelqu'un, il faut à la fois être séparé de cette personne et en même temps pouvoir être relié à cette personne. Cette modalité du détachement et de l'attachement, qui sont les termes que Frédéric utilise, de l'absence et de la relation, est une modalité essentielle de la pensée, de telle sorte qu'au fond, la pensée est toujours, en ce sens précis, une pensée adressée à quelqu'un. De ce point de vue, il faut établir une distinction, c'est la seconde thèse importante de l'ouvrage de Frédéric, il faut établir une distinction entre penser à quelqu'un et penser à quelque chose. Lorsque je pense à quelqu'un, d'une certaine façon, je me rapporte à cette personne, mais je suppose, c'est ce que Frédéric va sûrement développer, je fais fond en même temps sur tout un ensemble de relations avec cette personne, tout un vécu de partage avec cette personne qui donne tout son sens au fait de penser à cette personne. Ceci est totalement différent de l'autre régime de pensée qui est penser à une chose. Et donc il me semble, c'est peut-être là-dessus que je voudrais enclencher la discussion, qu'il y a au fond, je ne sais pas ce que tu en penses Frédéric, on pourrait dire qu'il y a peut-être trois régimes de pensée et pour moi ton livre est un livre qui explore au fond la pensée. Qu'appelle-t-on pensée ? Et pourquoi est-il si important de réfléchir à cette question qu'appelle-t-on pensée à partir de cette pensée très particulière en apparence qui est le fait de penser à quelqu'un ? Et dans, bien sûr, penser à quelqu'un, on a tout de suite une espèce de paradoxe du style indirect mêlé au style direct. Je pense à, donc on est dans l'indirect, mais en même temps, c'est une pensée adressée, donc je suis dans une espèce de registre direct, je m'adresse à quelqu'un. Et donc, on a une distinction très importante entre penser à quelqu'un et penser quelque chose ou penser une idée. Tu dis d'ailleurs à un moment que, Dieu merci d'ailleurs, tu dis, on ne pense pas à quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, vous venez ici, par exemple, à la table, et puis je vais établir votre portrait robot, je vais vous résumer dans une pensée. Heureusement, ceci n'est pas possible. Je peux essayer de résumer cette bouteille en donnant les caractéristiques de cette bouteille. Je peux donc penser cette bouteille, en avoir une idée claire et distincte, mais je ne peux pas penser quelqu'un, je ne peux pas avoir une idée claire et distincte de quelqu'un. Et de ce point de vue, penser à quelqu'un, c'est toujours être renvoyé à un mystère de l'incarnation de l'autre qui peut me surprendre et qui relance la pensée. Et donc, de ce point de vue, ce que je voudrais te demander, c'est au fond, est-ce que tu serais d'accord pour dire que ce régime de pensée-là, penser à quelqu'un, est peut-être la meilleure entrée possible dans la question qu'appelle-t-on pensée, ce qui peut-être orienterait vers une typologie des régimes de pensée que tu ne fais pas à proprement parler, je crois, dans le livre, mais je crois que bon, il y invite. On pourrait se demander dans quelle mesure il n'y a pas au fond trois régimes de la pensée, la pensée opératoire, tournée vers les choses, vers la manipulabilité, je me saisis de cette bouteille, donc je me la représente pour m'en saisir, etc. Une pensée donc tournée vers les objets, une pensée abstraite, qui serait une pensée de l'idée, par exemple. La philosophie, après tout, pendant longtemps, c'est considéré comme cette pensée de l'idée, donc cette pensée abstraite, avec une grande montée en universalité, alors que la pensée opératoire, c'est au contraire une grande descente en singularité, une grande descente vers un objet précis. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas entre ces deux régimes de pensée, pensée opératoire et pensée intellectuelle ou abstraite, un régime de pensée très particulier que tu, finalement, dévoiles dans le livre, qui est la pensée singulière ou la pensée adressée à quelqu'un. Et ce régime de pensée, pensée adressée à quelqu'un, au fond, doit être élucidé en tant que tel. Et je crois que le grand mérite de ton livre, c'est précisément de montrer non seulement en quoi ce régime de la pensée doit être explicité pour lui-même, parce que quand je pense à quelqu'un, effectivement, il se passe quelque chose de très spécial, de très spécifique. Cette pensée est une pensée d'amour ou de haine. D'ailleurs, tu dis que ce sont les deux pôles qui animent ce genre de pensée. Il ne peut pas y avoir de pensée indifférente, en un sens, vis-à-vis de quelqu'un. Donc, il faut expliciter ce régime de pensée. Et en même temps, il me semble que tu vas encore plus loin, puisqu'il me semble que tu suggères que toute pensée véritable, au moins, démarre à partir de cette pensée adressée. Donc voilà quelles sont mes quelques remarques pour lancer la discussion avec toi sur ce qui me semble être un grand livre de philosophie sur la pensée, et non pas bien sûr sur le cerveau, ce qui du coup me semble être un grand gain pour nous aider à penser précisément.
Merci Guillaume, je ne sais pas comment te remercier de cette présentation, sinon en essayant de te répondre d'ailleurs, c'est encore ça la meilleure manière d'essayer de te remercier. Je voudrais aussi remercier la librairie Mola et de son invitation et de nous avoir associés. On a déjà été plusieurs fois à cette table et j'ai des souvenirs très forts. Et même, je dois à Guillaume, je voudrais le rappeler, en 2005, je crois, ici même, dans un grand colloque sur le soin et la médecine. Je te dois d'avoir centré la question des relations que j'avais déjà en fait abordée sur les relations asymétriques, sur les relations vitales, et en fait c'est sans doute quelque chose, on a peut-être chacun, philosophe dit professionnel ou non, une ou deux questions qui nous travaillent singulièrement, et moi c'est celle-là, mais c'est vrai que tu m'avais fait centrer sur le soin, et on a eu ici, dans cette même salle, je me souviens, un moment très très fort, donc peut-être on pourra reparler, parce que en fait, on ne cesse. Après, on a d'ailleurs animé ensemble un dossier tiré de ce moment. Voilà. Donc, c'est pour moi très, très important et très précieux d'être là et de discuter avec toi et avec vous de ces questions. Voilà. Donc, alors, peut-être pour me greffer sur la manière dont tu as très profondément déjà présenté les choses. Je dirais, moi je distinguerais pas trois, mais deux quand même régimes. Je suis plutôt dans le binaire, non pas le dualisme, mais une sorte d'opposition. Mais en même temps, tu as tout à fait raison, il y a des degrés. Et ce que je pourrais dire, c'est que dans la pensée à quelque chose, il y a en effet des degrés qui nous font passer peut-être de ce que tu appelles la pensée opératoire à la pensée en idée, et j'y reviendrai, parce que en fait, pour moi, le sommet de la pensée à quelque chose que je ne critique pas en tant que tel du tout, mais que je distingue, c'est non seulement penser à une idée, mais à une idée qui surgit d'une rupture dans les relations, et c'est donc, pour moi, c'est entre les êtres singuliers que surgissent les questions, les problèmes, et même le monde, les objets, et puis peut-être que, donc, du coup, l'idée qui surgit spontanément, c'est d'abord paradoxalement des idées morales et même des idées négatives en fait. Donc moi j'aurais tendance à dire quand une idée surgit c'est d'une rupture entre les relations et donc par exemple c'est vrai que penser c'est injuste ou tu m'as quitté ou même enfin, il y a un certain nombre d'idées qui surgissent, qui sont tout de suite absolues, en effet. Bon, donc, il y a en effet quelque chose comme de l'idée qui surgit entre, mais depuis les relations singulières. Donc, il y a des degrés. Et puis, il y a aussi, on peut dire, des degrés ou des niveaux, plusieurs aspects à distinguer dans la pensée à quelqu'un. Et donc, il y a au moins deux degrés dans la pensée à quelque chose, mais il y a aussi des aspects, disons, dans la pensée à quelqu'un. Ce que je voudrais dire, c'est que mon but, ça a été quand même de montrer que nous savons tous que les pensées à quelqu'un sont, je dirais naïvement, importantes. Nous savons tous que parfois elles sont vitales et qu'elles peuvent même nous mettre en jeu dans notre capacité à penser. Un événement peut nous tomber dessus et nous rendre incapables de penser. On a quand même un cerveau, j'y reviendrai. C'était intéressant ce que tu as dit sur le cerveau. Bon, si on a, ça peut nous empêcher de penser, mais très curieusement, certaines pensées à quelqu'un, très heureuses ou très malheureuses, peuvent nous rendre fous, comme on dit, et de bonheur ou de malheur, et nous rendre incapables de penser, ou du moins incapables de penser à autre chose. On devient obsédé par des pensées. Donc ça veut dire que dans ces pensées que nous avons, de manière exceptionnelle, et c'est normal dans nos vies, se révèle quelque chose de réel, peut-être en effet une essence de la pensée, mais aussi l'essence même de notre vie, des relations qui sont si importantes pour nous qu'elles nous constituent ou nous détruisent, l'un des signes étant que nous nous faisons une image de la pensée en général, non seulement comme pensée à quelque chose, mais comme pensée comme un pouvoir en nous d'un sujet abstrait qui peut penser à ce qu'il veut, comme ça. C'est une image de la pensée, comme dit Deleuze, une image de la pensée très traditionnelle, et d'ailleurs assez normale. Penser à quelque chose, c'est aussi l'idée que c'est un sujet abstrait qui décide. C'est comme si j'avais une lampe torche, hein, et voilà, je décide de penser à ce que je vais faire demain, à un problème de mathématiques, ou bien à la personne que j'aime, et puis voilà. Je me suis maître de ma pensée. Or, les grandes pensées à quelqu'un, j'allais dire, peut-être aussi certaines expériences vitales, disons indirectement relationnelles, eh bien, on ne les maîtrise pas totalement. En fait, on s'aperçoit dans ses pensées que nous ne sommes pas toujours maîtres de nos pensées. Donc elles viennent en nous malgré nous, elles nous renvoient à quelque chose qui peut être quelque chose d'inconscient, donc il faudra y revenir, mais elles surgissent quand même consciemment. Et voilà. Et donc, c'est vrai que pour moi, elles ont quelque chose de singulier parce qu'elles nous renvoient à des relations constitutives dont on s'aperçoit par l'intensité même qu'elles sont constitutives de notre être, et pas seulement de notre être en général, mais de notre être singulier, que nous ne sommes pas seulement des sujets universels, abstraits, identiques. C'est vrai que nous le devenons, par exemple, quand nous faisons 2 plus 2 font 4, nous sommes tous également en train de faire, enfin, nous sommes tous, nous accédons à quelque chose que nous partageons. Mais quand je pense à quelqu'un, justement, je découvre que c'est moi qui pense à cette personne-là et pas, et un autre y pensera différemment. Bref, on découvre qu'on est soi-même un quelqu'un de singulier. Et donc ça m'amène à un autre point que je pourrais reprendre ici, mais on aura le temps de discuter de toutes sortes d'aspects, c'est que qu'est-ce qui distingue la pensée à quelqu'un de la pensée à quelque chose, hein? D'abord, il y a cette dimension vitale, affectante, on pourrait dire, qui peut, encore une fois, est vitale parce qu'elle est aussi mortelle. Hein. Moi, je reste, dès que Guillaume est un des grands spécialistes de Canguilhem, je renverse aussi lors de la présentation, hein, mais quand même. Et moi, je reste très canguilhémien. Canguilhem est quelqu'un qui a défini la vie par l'opposition du normal et du pathologique, on peut dire aussi du vital et du mortel. Moi, je pense que, en effet, tout ce qui est vital est aussi mortel, et si ces pensées sont vitales, c'est aussi parce qu'elles peuvent nous détruire. Hein. Donc, c'est la preuve qu'elles sont vitales. Mais ce qui fait qu'on pense à quelqu'un, c'est pas seulement penser à autrui, penser aux relations en général, mais pourquoi est-ce que il faut parler de penser à quelqu'un, quelqu'un de singulier? Qu'est-ce qui distingue penser à quelqu'un de penser à quelque chose? À mon avis, c'est parce que quand nous pensons à quelqu'un, nous pensons à un être singulier qui se rapporte à nous activement et expressivement d'une manière singulière. Nous pensons avec qui nous avons nous-mêmes une relation singulière, par rapport à qui nous nous définissons. Par exemple, penser à un ami, c'est penser à un certain événement de notre histoire, à certains événements de notre histoire, à certaines choses partagées, que nous avons partagées, et qui me définissent, moi, d'une manière singulière. Je pense à, on va penser à certaines discussions, à certains souvenirs partagés, etc. Penser à quelqu'un, c'est penser à quelqu'un avec qui me lie en effet une relation singulière, concrète. C'est pas et qui a quelque chose à la fois d'irremplaçable et d'actif, hein, de singulier. Hein. C'est extrêmement extrêmement important. Quelqu'un que je vais que je vais caractériser par des traits irréductibles, évoquer son image, une image concrète, la manière dont il rit, la manière dont il parle, un ton, un style, hein, donc, un style d'action, Et donc je pense que ça nous révèle aussi que précisément dans la pensée, je suis pas seulement un sujet abstrait, mais c'est ma singularité personnelle qui se constitue. Donc la pensée à quelqu'un nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, et parfois sans que nous le choisissions, nous apprend d'une certaine manière non seulement que nous sommes des sujets vivants, que nous dépendons d'autrui en général, mais qui nous sommes individuellement, que la subjectivité individuelle existe réellement, que nous avons raison, quand nous disons « je », de penser à la fois à une dimension universelle et à toi et moi, Dupont, Durand, et voilà. Et il y aurait beaucoup à dire sur cet aspect.
Oui, parce que est-ce que ça veut dire du coup que quand on pense à quelqu'un, au fond, on arrive à aussi penser à soi-même ? C'est-à-dire puisque, au fond, on est amené à dire « je », et donc à prendre conscience de ce jeu par le fait de s'adresser à un tu, même sur un mode indirect.
Voilà, je pense que quand on pense réellement à quelqu'un, c'est pas forcément qu'on pense à soi-même, réflexivement, que ce soit évidemment une dimension qui apparaît très vite. Hein, si j'ai rendez-vous avec une personne que j'aime, je me demande ce qu'elle va me dire. Mais c'est qu'on sent qu'on est impliqué dans sa pensée. Dans le fait de penser à elle ou à lui, je suis impliqué. C'est donc pas seulement que je pense à moi comme si j'étais un objet de pensée parmi d'autres, mais c'est que cette pensée est vraiment la mienne, m'absorbe. Alors tu as parlé de l'absence. Dans les pensées qui nous impliquent, nous sommes absents au monde, mais nous sommes présents à la relation et nous sommes impliqués dans la relation. Oui, je pense que la pensée est vraiment relationnelle, que penser à autrui, c'est aussi une preuve de notre existence. Descartes dit « je pense, j'existe ». C'est une démonstration par l'universel. C'est-à-dire que même si on veut me faire douter de mon existence, le doute sera encore une pensée. Mais quand je pense à quelqu'un, je sais que j'existe, mais que j'existe comme sujet relationnel, affecté, individuel. Et je sais que j'existe grâce à l'autre, mais aussi dans la distance avec l'autre, et la pensée me révèle aussi mon isolement, ma séparation, ma distance. Hein ? Et c'est vrai que je pense que ces expériences nous révèlent quelque chose de la pensée, mais quelque chose de la vie tout court, c'est-à-dire que nous sommes réellement rattachés aux êtres, mais aussi réellement distincts d'eux. Et penser la relation, c'est pas penser la fusion, c'est aussi penser la séparation, pour le meilleur et pour le pire, hein, parfois dans la douleur, même dans une douleur destructrice, et parfois, évidemment, non seulement dans le bonheur d'être avec l'autre, mais dans le bonheur de ces pensées que nous permet l'autre. Et si nous oublions les pensées à quelqu'un, c'est aussi parce qu'elles nous permettent, quand elles sont heureuses, elles disparaissent. Nous n'y pensons plus et nous faisons autre chose, nous pensons à autre chose. Donc le paradoxe, c'est que si nous oublions les pensées à quelqu'un, c'est aussi parce que leur plus grande force est de se faire oublier. Elles se font oublier. Heureusement, je ne pense pas aux gens que j'aime. Là, en ce moment, en train de te parler, ce serait mauvais signe. Mais je sais que, d'une certaine manière, je suis soutenu par des relations et je peux penser à autre chose. Ces pensées donnent lieu à toutes sortes d'enjeux et d'usages aussi.
Et du coup, l'une des implications que tu tires de cette distinction entre penser à quelqu'un et penser à quelque chose, C'est une, tu tires une, au fond une implication éthique de cette distinction que tu rappelles dans ton livre. Hein. Je lis juste le passage. Tu dis, c'est page 40, hein, penser, donc 39-40, penser à quelqu'un, ce n'est pas penser à quelque chose. Peu à peu, nous commençons à le comprendre. Et tu dis ceci. Tout de suite, on touche à un principe moral et on voudrait aussitôt l'universaliser, on devrait aussitôt l'universaliser, on pourrait le formuler ainsi. Ne jamais penser à autrui comme à une chose, ou comme à quelque chose, mais comme à quelqu'un. Alors là, est-ce que tu peux expliciter cette transcription de l'impératif de Kant, hein, ne jamais traiter autrui comme un moyen, mais toujours comme une fin, dans ta propre réflexion finalement?
Voilà, alors c'est une première étape, et c'est une étape qui vient, je dirais, après coup. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, au fond, nous ne pensons pas toujours à quelqu'un, et même quand ça marche, nous pensons à des objets, nous pensons à des idées, et donc nous avons tendance à regarder les autres sujets. Un des effets, hein, c'est effectivement d'oublier cette dimension qui pourtant nous constitue. Et donc la morale consiste à la retrouver. Et donc, il y a une sorte d'impératif qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les théories du soin, justement. Il ne faut pas traiter l'autre seulement comme un objet, mais aussi comme un sujet. Pensez à lui. Mmh. Hein? Et de fait, on peut définir la violence comme le fait de penser à un être humain, non pas comme à un sujet, mais comme à un objet. C'est une définition traditionnelle aussi de la violence entre les hommes. Hein? Réifier, chosifier un sujet. Le traiter comme un objet. Dans le soin médical... C'est un risque même inévitable, parce que la médecine consiste, pour soigner quelqu'un, à le traiter aussi comme un objet. Il a une jambe cassée, il a un cerveau, donc il faut traiter ce cerveau comme une partie de matière, c'est légitime, et peut-être qu'un peu de chimie va réparer ce cerveau, mais du coup on oublie qu'il est aussi un sujet global, quelqu'un, à qui il faut s'adresser comme tel. Donc la première étape, mais ça n'est pour moi que la première étape du travail sur cette dimension, parce que c'est une étape un peu d'une morale nécessaire, mais un peu extérieure à mes yeux, un peu prescriptive. Il faut penser aux hommes comme à chaque homme, comme à quelqu'un. Mais pourquoi ça n'est que la première étape? C'est une étape très importante, hein. C'est une étape qu'on oublie souvent. Mais j'en rajouterai deux autres, en fait. La première, qui est la plus importante de toutes, c'est qu'en fait, cette pensée à quelqu'un, à un homme comme à quelqu'un, elle n'est pas seconde, mais elle est première. Elle est première dans notre vie, et c'est pas du tout une fiction philosophique, c'est que nous ne serions pas là si quelqu'un n'avait pas pensé à nous comme ça. Et ça renvoie quand même, je crois, ici, aux relations primitives entre les êtres humains, aux soins que nous appelons parfois parentaux, aux soins d'attachement, qui constituent l'attachement. C'est-à-dire qu'un nourrisson humain, ici soyons très empiriques, hein, très empiristes, très expérimentaux même, un nourrisson humain, pour qu'il survive, il faut lui donner à manger et à boire, mais il faut aussi s'adresser à lui singulièrement, par des mouvements qui s'adressent à lui, et qui sont donc orientés vers ces expressions qui, elles-mêmes, vont répondre. Par exemple, s'il pleure, il faut venir. S'il sourit, on sourit. C'est ça que j'appelle aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu peut-être généralement. Penser à quelque chose, c'est le prendre comme un objet. Penser à quelqu'un, c'est dialoguer avec quelqu'un d'autre. C'est être dans, c'est l'expérience de la réponse expressive à une expression singulière. Et les théoriciens de l'attachement montrent que c'est absolument vital. Si on n'a pas ce rapport-là à un nourrisson, il meurt aussi bien qu'il peut mourir de faim et de soif. Il y a des expériences très intéressantes, d'ailleurs, qui montrent que... c'est des expériences un peu cruelles. Hein, c'est un bébé qui sourit. Il y a des expériences, on met sa mère devant lui et on demande à sa mère de ne pas répondre à son sourire par un sourire. Et au bout d'un certain temps, le bébé se détourne et devient absolument inexpressif. Et cette inexpressivité est toujours le signe d'une certaine mort psychique. Il n'est plus lui-même, parce qu'il n'a plus cette sorte de... Voilà, donc tout ça pour dire que la pensée à quelqu'un, c'est un des renversements que j'essaye de montrer, la pensée à quelqu'un n'est pas d'abord un pouvoir que j'ai, et auquel il faudrait recourir moralement, ça l'est aussi, hein, mais en disant, voilà, pense à lui comme à quelqu'un. Cet être qui est là, en train de souffrir, c'est très bien que tu l'aides. C'est très bien d'être dans l'objectivité de l'éducation, de la médecine, de la société, etc. Mais il a aussi une dimension subjective. Mais en réalité, avant que nous pensions à quelqu'un, quelqu'un a pensé à nous et nous a constitués comme sujet. Donc c'est encore plus originaire et vital que nous ne pensions. Si cette relation adressée, qui montre que la pensée n'est pas seulement une représentation, un spectacle dans l'esprit, mais un acte du corps, un acte expressif, quand nous disons à quelqu'un « j'ai pensé à toi », c'est déjà un commencement de mouvement, ou alors ça peut aussi être un mensonge, hein. Il y a des usages sociaux, on dit aussi « j'ai pensé à toi » un peu rituellement, hein. Sincère pensée, affectueuse pensée, mais quand même c'est toujours par des actes. Hein. D'ailleurs, ça donne lieu à toutes sortes de, encore une fois, de phrases dont la ritualisation sociale montre que c'est aussi un enjeu de pouvoir, un enjeu symbolique. Par exemple, on dit « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Bon, si j'ai pensé à toi, il faut offrir un cadeau à Noël. Si on n'offre pas de cadeau, c'est qu'on n'a pas pensé à l'autre. Hein. Et alors, est-ce que ça veut dire que la pensée à quelqu'un est un pur code social? C'est possible, mais je ne le crois pas personnellement, je crois que c'est le contraire. Donc les sociétés ont codé ces pensées pour permettre au sujet aussi de se constituer. Bon. Enfin, tout ça pour dire que il y a une dimension morale, mais elle est encore plus profonde qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'on est constitué par ses pensées à quelqu'un, et encore une fois, on est constitué ou pas. C'est-à-dire que c'est plus ou moins constitutif, plus ou moins bien constitutif, et on peut penser à quelqu'un en bien ou en mal. Et je pense même que c'est cette réalité de la pensée à quelqu'un qui fait que notre vie est partagée entre bienveillance et malveillance, entre bonté et méchanceté, même plus qu'entre le bien et le mal, hein, qui sont que des idées qui découlent de ça. On peut aller par-delà le bien et le mal, mais on ne peut pas aller par-delà la bonté et la méchanceté, parce que c'est des expériences originaires. Et donc, il y a une sorte de polarité irréductible, mais aussi de dimension morale et irréductible, et encore plus profonde qu'on ne croit. Hein, donc, il y a la dimension prescriptive, tu penseras à chacun comme à quelqu'un, mais il y a une dimension originaire plus profonde, et au-delà de la dimension morale, il y a une dimension aussi politique, c'est que ces pensées sont si importantes dans nos vies que c'est elles qui incarnent les valeurs morales et politiques. Hein, on pense à un acte de justice, c'est penser à quelqu'un qui a été juste. On croit que c'est secondaire, mais en fait, c'est fondamental. La justice, c'est un principe, mais c'est aussi des justes. Et l'injustice, c'est pareil. Et le politique vient se greffer dans ses pensées, vient nous donner des objets de pensée obligatoires, normatifs. Nous penserons à des héros de science-fiction, à des vedettes de cinéma, à des hommes de pouvoir. On nous impose tout le temps des sujets à qui penser. Et pour moi, ça prouve l'importance de ces pensées dans nos vies. Donc, j'ai dit beaucoup de choses mais je crois que c'est pour souligner que c'est effectivement une expérience plus importante, vitalement, moralement, qu'on ne le croit.
Du coup, on découvre, à te suivre, donc effectivement, dans l'expérience de la pensée, on découvre finalement deux éléments qui s'articulent, non d'ailleurs, l'un à l'autre. D'une part, que nous sommes précédés par des pensées qui nous sont adressées, ouais, de manière bienveillante ou malveillante. De telle sorte que nous sommes toujours précédés par des idées de nous-mêmes. Hein. Et donc la question, c'est de savoir ce que aussi nous faisons de ces idées qui nous précèdent et qui nous sont adressées de façon bienveillante ou malveillante. Et on découvre aussi la capacité que nous avons de nous adresser à quelqu'un d'autre, hein, donc de nous rapporter à d'autres. Et donc, je voulais savoir comment tu envisageais tu parles à un moment des violences sociales liées à ces pensées qui nous précèdent et qui nous définissent. On peut penser effectivement au raisonnement de Sartre que tu évoques, selon lequel je suis toujours précédé par une idée de moi-même qui a été posée par les autres, par mes parents, par exemple. Mes parents en m'engendrant, ont eu une idée de garçon, et puis on produit une certaine représentation du garçon que je suis censé rejoindre. Mais Sartre, à un moment donné, disait « Mais tout cela, au fond, me définit ponctuellement, mais j'ai la liberté, effectivement, de m'arracher à ce régime de définition qui me précède pour poser ma propre idée de moi-même, en rapport d'ailleurs avec autrui. Donc j'ai la possibilité, à un moment donné, d'exister avant que d'être défini. Donc je voulais savoir comment tu reprenais ou non cet argument et comment tu envisageais cette relation précisément entre des pensées qui nous précèdent et qui nous font être d'une certaine manière ou qui nous définissent d'une certaine façon et la capacité que nous avons en pensant par nous-mêmes. Du coup, c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que penser par soi-même. La capacité que nous aurions en pensant par nous-mêmes à nous arracher éventuellement à ces représentations qui nous ont précédés, justement. Il me semble que le problème philosophique, enfin l'un des enjeux de la philosophie, se situe justement oui. à l'intersection de ces deux régimes de pensée, finalement.
Tout à fait, mais c'est parce que il y a des pensées qui nous sont adressées de manière bienveillante ou malveillante, au fond, c'est une manière un peu rapide de dire. Et c'est vrai que les pensées malveillantes vont consister le plus souvent, c'est pas leur seule forme, parce qu'il y a aussi des pensées vraiment singulières. Hein. Mm. C'est même ça le comble de la méchanceté, de la cruauté, c'est de vouloir faire mal à quelqu'un de singulier comme tel. Hein. Mm. Mais sinon, parmi les pensées qui nous détruisent, il y a effectivement les pensées qui nous objectivent, qui nous réduisent à une essence. C'est ce que Sartre décrivait très bien. Les pensées aliénantes, c'est des pensées qui me réduisent à mon corps comme objet, à mon origine, à une identité, quelle qu'elle soit. Et pour Sartre, on a en nous une liberté, en effet, qui est irréductible à tout ça. Je ne suis jamais entièrement l'objet que l'on dit que je suis. Je ne suis pas je ne suis pas quoi que ce soit d'ailleurs, hein, puisque pour ça, comme vous le savez, la conscience elle-même, tout objet est donné à une conscience, qui donc elle-même n'est pas un objet, qui n'est rien, et qui est un pouvoir de ne pas être ce qu'elle est. Donc je ne suis pas ce corps, puisque je me rapporte à ce corps. Et donc ce je qui se rapporte à ce corps est une pure liberté. Et le bourreau, la violence, consiste à essayer d'agripper cette liberté, de le réduire à un corps par la violence physique, de le réduire à une identité sociale, de le réduire à ceci ou cela. Donc, d'où les textes admirables sur la négritude, ou sur la question juive, ou sur... À chaque fois, le sujet a une capacité à s'échapper, qui est insupportable pour les autres. On voudrait justement le réduire, donc le bourreau veut réduire le corps qu'il torture à un corps. Mais, dit Sartre, il n'y arrivera jamais parce qu'il y a le regard de l'autre qui lui montrera toujours qu'il lui échappe. Donc on a toujours une capacité de s'enfuir. Donc je suis d'accord avec Sartre dans la partie négative, en gros. C'est-à-dire que la violence consiste bien en cela, hein, l'aliénation consiste bien en particulier à nous réduire à une chose. La question c'est, est-ce que nous sommes tous d'emblée et toujours avec cette capacité cette liberté. Et je crois que c'est là qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des pensées bienveillantes et que les pensées bienveillantes, c'est pas juste des pensées gentilles comme ça qui vont nous apporter des cadeaux, c'est des pensées qui nous permettent d'exister nous-mêmes. Et qu'on le voit bien dans l'attachement parental, par exemple. C'est au bout d'un moment, comme dit Winnicott, qui est pour moi une référence importante ici, l'enfant à qui on a suffisamment bien pensé, puisqu'il dit que c'est la mère ou la figure parentale suffisamment bonne, le critère, c'est que non seulement on l'a fait exister, on lui a chanté des chansons, etc., mais il devient lui-même créatif. On l'a créé, et le fait qu'on s'est adressé à lui pour lui-même ne va pas se traduire par le fait qu'il existe. Lui, le bébé Jeannot ou Jeannette, mais qu'il fait des choses singulières. Il fait des dessins, il explore le monde, etc. Et donc je crois qu'il n'y a pas un pouvoir neutre, vide, une liberté vide, mais soit on objectif quelqu'un, soit on le subjective, on pourrait dire. Soit on le réduit à une chose, soit on lui permet d'être quelqu'un activement, créativement. Et c'est pour ça que nous savons très bien que nos enfants, mais aussi nos amants, nos amis, sont eux-mêmes quand ils font quelque chose de singulier qui nous échappe, qui nous dépasse, qui nous surprend, qui nous ravit, qui nous énerve parfois, mais qui, en tout cas... fait partie de la véritable relation avec quelqu'un, pas réductible ni à une chose, ni à nous. L'épreuve de la relation, c'est aussi l'épreuve d'une altérité, mais pas d'une altérité seulement comme une loi, comme un visage absolu, mais comme une différence, une créativité qui est aussi une résistance. Il peut y avoir du conflit. Donc, cette liberté, cette capacité de résistance même, je dirais, c'est pas une liberté abstraite, une sorte de capacité d'échapper, mais c'est une autre phase de la pensée à quelqu'un. Et cette singularité, d'ailleurs, le méchant le sent bien, et Sartre a aussi des pages admirables là-dessus, parce qu'à un moment, parfois il décrit la méchanceté, par exemple dans L'être et le néant, il décrit la torture, et la torture, c'est vraiment vouloir saisir la liberté de l'autre. Bon. Mais dans Le Saint-Genet, que je cite à un moment, oui, il décrit la méchanceté d'une manière plus singulière, plus forte à mon avis, parce que la vraie méchanceté, c'est pas seulement de vouloir saisir la liberté de l'autre, c'est de vouloir faire mal à lui, cet homme-là. Et d'une manière très forte, il dit, cette méchanceté-là suppose une connaissance parfaite d'autrui. On veut l'atteindre dans son point faible à lui. On veut lui faire mal dans ce à quoi il tient le plus. On veut l'humilier précisément dans le terrain qui est le sien à lui. Et donc il dit que, très curieusement, cette méchanceté-là suppose une connaissance parfaite d'autrui, elle suppose l'amour. Pour être à ce point, pour atteindre à ce degré de méchanceté, il faut aimer, en réalité. Comme le jaloux est dans l'amour, comme Iago connaît parfaitement Othello, comme on l'atteint par son point faible, et son point faible suppose... Et donc ça peut être très réducteur de dire ça, ça peut vouloir dire, en fait, celui qui est, aime, c'est en fait il m'aime, bon, mais en fait... Je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette idée que la méchanceté est le contraire de la haine, est le contraire de l'amour, mais vraiment le contraire. C'est-à-dire, c'est vraiment pas du bien qu'on veut faire, c'est vraiment du mal. Et peut-être je peux glisser quelque chose là-dessus à quoi je tiens beaucoup aussi, c'est la seule manière de penser le mal. Vous savez qu'il y a, je discute à un moment, enfin. Toute proportion gardée, bien sûr, avec la thèse très célèbre de Socrate, hein, de Platon, selon laquelle on ne fait jamais le mal volontairement. Et c'est vrai que si on prend la pensée abstraite, ce que tu appelais la pensée opératoire ou les idées, on ne peut pas faire le mal. Parce que dès qu'on fait quelque chose, c'est qu'on le juge bien. Donc ce Platon dit, personne ne fait le mal volontairement. Par exemple, si quelqu'un assassine des millions de personnes, c'est parce qu'il pense au fond que c'est un bien. Donc dès qu'on veut quelque chose, c'est parce qu'on le trouve bien, même si ça fait du mal aux autres. Et bien justement, je pense que c'est une idée abstraite de la pensée. En réalité, on peut vraiment vouloir le mal, mais pas en général, pas non plus en réalité le sien d'une manière abstraite, mais le mal de quelqu'un, le mal de quelqu'un d'autre, et parfois son propre mal à soi aussi. Précisément en tant qu'on n'est pas juste le sujet de la volonté, parce que vouloir son propre mal, c'est totalement impossible du point de vue d'une idée abstraite de la volonté. Si je veux mon propre mal, on tombe toujours dans le problème de Socrate, si je veux mon propre mal, je le veux, si, ce que je veux, c'est que je le désire, si je le désire, c'est que c'est un bien, donc en fait, je ne peux pas vouloir mon propre mal. En réalité, c'est plus compliqué, parce que précisément, nous avons aussi une relation à nous-mêmes, analogue à la relation à autrui, et on peut en réalité vraiment vouloir le mal d'autrui. Donc le mal existe, comme je disais à un moment, le mal est possible parce que les relations sont réelles, c'est-à-dire parce qu'il y a vraiment de la différence entre les sujets, parce que nous sommes aussi vraiment dédoublés nous-mêmes, nous sommes vraiment en relation avec nous-mêmes, parce que la relation avec autrui nous a constitués. Et j'aime beaucoup ce passage de Sartre, parce que il va plus loin que sa propre théorie de la violence, où la violence est d'abord une réduction de la liberté, qui elle-même peut toujours s'échapper. Mais dans le Saint-Genet, grâce à la perversité un peu de Genet lui-même dans ses romans, hein, il s'aperçoit que la méchanceté, c'est une vraie relation. On peut vouloir non seulement saisir la liberté d'autrui en général, mais faire mal à ce quelqu'un-là. Donc il y a aussi une preuve de la réalité des relations singulières par la méchanceté. Mais heureusement, pas seulement par la méchanceté quand même. Hein.
Mais... Et justement, si du coup on reprend le raisonnement, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la, non plus du côté de la méchanceté, mais du côté de la bonté,
oui.
Est-ce que tu dirais que du coup la question de la pensée adressée à un ami, pour prendre au fond le modèle de l'ami et son importance dans l'histoire de la philosophie, hein, depuis au moins Aristote, qui réfléchit sur le lien entre amitié et philosophie. Est-ce que tu dirais qu'il y a une importance particulière de la pensée adressée à l'ami peut-être au sens où, justement, quand je pense à un ami, je suppose en même temps que je pense à un ami, que l'ami pense à moi. Et ce partage, au fond, de la pensée adressée, est-ce que ce n'est pas ça qui définirait le propre d'une pensée amicale ou d'une pensée amoureuse? Alors après, est-ce qu'il n'y a pas là, au fond, quelque chose de comme un enjeu pour la pensée que de parvenir à dévoiler cette nécessité d'un partage? Je pense à quelqu'un, mais alors c'est vrai que quand je pense à mes enfants, par exemple, oui, je peux penser peut-être que mes enfants pensent à moi, mais la dissymétrie entre parents et enfants n'est pas abolie par le fait qu'en pensant à eux, je suppose qu'ils pensent à moi de la même manière. Mmh. Il y a une espèce de relation qui demeure dissymétrique. Dans la pensée amicale, quand je pense à mon ami, par exemple, et que je suppose, et peut-être que j'y pense parce que aussi je suppose que mon ami pense à moi, est-ce qu'il n'y a pas au fond l'abolition de la dissymétrie, donc quelque chose comme une expérience de partage littéral qui définirait l'égalité entre les amis, hein? Et en ce sens-là, on est véritablement dans ce genre de pensée, dans le maximum de relationnalité et d'éthicité par rapport à ce que tu dis de la pensée en général.
Oui, merci, parce que c'est très central. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas si facile que ça à faire admettre et à penser, pour une raison très profonde, parce que, par exemple, si on prend les philosophies antiques de l'amitié, pour qui l'amitié est centrale dans la philosophie, et même l'amour, hein, d'ailleurs, d'une certaine forme d'amour, en tout cas. Mais l'amitié, chez tous les philosophes grecs, c'est un élément absolument central de la philosophie. Vivre en ami, on ne peut pas faire de la philosophie tout seul, on fait la philosophie avec ses amis, on partage la philosophie, et bon. Mais il y a une tension, une contradiction dans la pensée antique de l'amitié, c'est que on ne sait pas si on est sage parce qu'on est avec ses amis, ou si on est avec ses amis parce que ce sont des sages. Autrement dit, pour Aristote, par exemple, qui est un très grand penseur de l'amitié, la valeur de l'amitié tient quand même à ce qu'on partage avec les amis. Donc elle monte en degré selon le contenu de l'amitié. Donc si c'est pour boire un coup, c'est une amitié mais dans le sensible. Si c'est pour accéder à la vertu, et la plus haute amitié est fondée sur la vertu, c'est l'amitié parfaite. Donc il y a partout de la relation, mais elle va être normée par quelque chose d'extérieur à la relation, par la vertu, par la sagesse, etc. De même, Socrate dit « Ne m'aimez pas moi, vous avez raison d'être mes amis, mais il faut d'abord aimer la justice. La preuve, vous voulez me sauver de la mort, mais ce n'est pas très important, ma mort. Ce qui est important, c'est d'être des amis de la sagesse. » C'est que, voilà, on aime Socrate parce qu'il est juste, on n'aime pas la justice parce qu'il y a Socrate. Parce qu'elle a été incarnée par Socrate. Et Socrate lui-même s'efface derrière l'idée. La plupart des grandes sagesses disent, les grands sages disent « Ne m'aimez pas moi, mais aimez à travers moi la justice, le bien, la vérité. » Donc il y a une vraie contradiction. Et c'est assez récent et assez moderne, au fond, enfin, c'est un peu vague ce mot moderne, mais d'admettre l'idée que, en fait, dans l'ami, ce qu'on aime, c'est aussi le quelqu'un singulier. Même s'il nous ouvre à des idées. Donc c'est vrai que le penseur de l'amitié, celui qui a incarné ça, c'est la phrase la plus célèbre sur l'amitié aussi moderne, c'est Montaigne, qui dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Ça, c'est pas du tout le sage antique. On aime pas, enfin, on n'est pas censé aimer Socrate parce que c'est Socrate. Mais en fait, Platon, qui a un peu idéalisé, au sens très fort du mot idéalisé, c'est-à-dire qui a fondé la pensée de Socrate sur des idées, lui-même, dans ses dialogues, ce qu'on voit, c'est Socrate. C'est Socrate lui-même, avec son sourire, avec son ironie, avec son... Et Kierkegaard a très bien montré ça aussi. Kierkegaard était scandalisé parce qu'il disait toujours « On croit que le médiateur est secondaire par rapport à ce à quoi il nous fait accéder. » On croit que derrière Socrate, il y a la philosophie. Mais ce n'est pas vrai. La philosophie, c'est la rencontre avec Socrate. C'est la rencontre existentielle avec Socrate. La religion, pour tout Kierkegaard, hein, c'est la rencontre, non pas avec une abstraction, l'être suprême, mais c'est avec le Christ. Bon. Et c'est très difficile d'admettre que les idées peuvent être vraiment portées dans la relation singulière. Que, par exemple, la philosophie, c'est vraiment la discussion qu'on est en train d'avoir et non pas... Notre relation n'étant pas seulement, comme dit Kierkegaard, qui s'indigne vraiment dans les miettes philosophiques, hein, lisez ces textes extraordinaires, c'est vraiment, on va réduire la discussion à l'occasion pour la philosophie. Bon, Donc l'important, ce serait la philosophie. Mais où est-ce qu'elle est, la philosophie? Alors, il y a des gens qui ont critiqué cette idée relationnelle de la philosophie. Hein. Soit il y a des idées abstraites, soit on a des intuitions singulières. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que la philosophie surgit dans la discussion, mais aussi dans la discussion contrastée. On n'est pas d'accord, on marque ses limites. Mais c'est toujours quand même réellement relationnel. Dans le réellement relationnel, ça veut dire avec un tel. C'est-à-dire que dire qu'il y a la philosophie au-delà du... Alors oui, elle est au-delà, parce que ce qui est intéressant, elle apparaît comme un objet dans l'entre-deux. Socrate nous fait discuter sur la vertu en général, mais néanmoins pour accéder à la vertu en général, c'est dans la discussion avec Socrate.
Oui. Voilà, parce que du coup, la question qui se pose, forcément, c'est la relation que tu as établie entre une pensée relationnelle, donc adressée à quelqu'un, et puis le fait que dans, éventuellement à l'intérieur de cette pensée relationnelle, va se développer une idée.
Voilà.
Et donc ce lien entre l'idée, au fond, le fait de penser une idée et de penser à quelqu'un. Comment est-ce que se construit... Voilà, c'est une vraie...
Je crois que c'est le cœur de la vie...
C'est le cœur du problème.
Pour moi, c'est le cœur de la vie humaine. Oui. C'est le cœur de la vie humaine, c'est-à-dire que la vie humaine, c'est vraiment ces expériences... d'une relation qui est à la fois un contact et une distance, et dans la distance s'ouvre aussi l'accès au monde. Mais il est certain qu'à mes yeux, il faut les deux. C'est-à-dire que c'est impossible d'accéder à des contenus indépendamment des relations, mais en même temps, le critère d'une vraie relation, c'est qu'elle nous fait accéder à quelque chose. C'est qu'on partage quelque chose. Donc Aristote avait aussi raison. Aimer quelqu'un, c'est aussi aimer... faire des choses avec lui, découvrir le monde, etc. Et ça vaut pour la... Ça pose des vrais problèmes éthiques et politiques. Par exemple, c'est très difficile de se soucier d'une cause abstraite si on ne nous montre pas quelqu'un. Quelqu'un qui va, par exemple, c'est très difficile de sympathiser pour une cause politique si on ne nous montre pas les êtres qui sont des victimes de telle ou telle violence. Bon. Mais en même temps, on peut aussi se servir de cette puissance de la relation pour écraser le sens de ce qui se passe là.
Oui.
Donc il faut toujours un mixte de relations concrètes et d'idées abstraites. Moi, j'en fais aussi une... Il y a une autre conséquence. Excuse-moi, je vais un peu du coq à l'âne. Mais il y a aussi une autre conséquence. C'est, je pense que dans un récit équilibré, une relation, cette fois-ci au sens d'un récit... Hein, un texte littéraire ou journalistique ou politique, va toujours mêler l'image comme relation concrète et le sens comme idée abstraite. Pour ça que, regardez bien, ça permet de faire le tri entre les relations avec quelqu'un. On parle du pouvoir des images, on a raison.
Oui.
Une violence des images, c'est quand elles ne sont pas reprises dans un sens.
Que j'allais dire.
Mais en même temps, l'abstraction d'un sens qui ne nous relie pas à des images, à une relation concrète avec un corps humain bougeant, vivant, singulier, évidemment, est impuissant, on pourrait dire ça. Comme Kant dit que le concept sans l'intuition est vide et que l'intuition sans concept est aveugle, on pourrait dire que dans nos vies, la relation sans le sens et l'image, le contact sans le sens est une force, mais aveugle, puissante, mais qui peut être violente et qui est manipulable. On va nous faire pleurer dès que je vois quelqu'un pleurer. En même temps, si on ne m'explique pas le sens, comment me relier à cet être par des normes de justice, par une construction intellectuelle, ça devient une manipulation. Mais inversement, si on ne me parle que des normes de justice, sans la relation, voilà. Et donc je pense qu'il faut utiliser ce mixte comme un contre-pouvoir, à la fois contre l'abstraction des idées, mais aussi contre la violence, la manipulation des affects. Et c'est extrêmement important, parce que c'est aussi important pour notre vie, parce que nous sommes affectés par des images, nous voulons leur donner sens, et en même temps, on doit bien créer des images, on est pris dans ces relations singulières, il faut l'accepter. C'est-à-dire que la forme de sagesse qui consiste à dire... On va accéder à la pensée universelle, on peut se détacher des relations singulières. Je crois que c'est une demi-sagesse, mais c'est déjà très, très beau, hein, c'est la très très grande sagesse. Toutes les philosophies anciennes, Spinoza, tous les rationalismes nous font accéder à ce sens universel, mais ils sont quand même hantés par des relations singulières.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas s'en débarrasser.
Oui, effectivement, vivre, c'est toujours, d'une certaine manière, donner sens aux images qui nous affectent. Et c'est en même temps mettre en image le, voilà, le sens que l'on propose pour soi-même et pour les autres. Et c'est d'ailleurs une opération très, très fragile parce que de la violence peut surgir à tout moment qui va interrompre ce processus. Voilà. Ou de la manipulation. Et là, ça ouvre à toute une, ça ouvrirait à toute une réflexion sur la manipulabilité aussi de, de cette relation. Parce qu'au fond, on peut, on en a des preuves encore très, très récemment de, là, de quelque chose qui a été monté pour pouvoir passer sur YouTube en boucle d'un frère qui va sauver sa petite sœur dans les bombardements, je crois, en Israël ou en Palestine, je ne sais plus, et où en fait tout le monde s'est ému et en réalité c'était une construction par un cinéaste danois quelque part au fin fond du Danemark. Donc on voit bien comment on est dans un registre où mettre en image est très important, mais où en même temps, du coup, la possibilité de manipuler, effectivement, devient une arme terrible, précisément. Voilà. Et ça, je crois que c'est un élément de ton...
C'est là qu'on retrouve penser à quelqu'un. Camus disait « Les hommes sont méchants par manque d'imagination ». Ça peut paraître... Et Hannah Arendt disait la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer, à se mettre dans la peau de quelqu'un. Il y a toute cette question de l'empathie dont on n'a pas parlé. Aussi.
Oui,
cette question de la projection dans autrui. Mais c'est vrai que il s'agit certainement... Enfin, si on se contentait de simplement imaginer, ce serait aussi une violence. Donc pour moi, l'opposition n'est pas entre imaginer ou connaître, hein, entre une science du politique et un affect, plutôt entre deux manières de les combiner. Deux manières de penser à quelqu'un concrètement, relationnellement, etc. Et de montrer que nous-mêmes, on est toujours partagés, hein, qu'il faut donc résister. Je crois que la pensée à quelqu'un est une de nos ressources, hein, un de nos risques. Hein. On peut être très abîmé par elle, mais aussi une de nos sources de résistance.
Oui, d'ailleurs, c'est très révélateur comment, justement, là, puisqu'on célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale, comment les témoignages des soldats qui partaient à la guerre, avec des liasses de lettres dans les portefeuilles, voire des médaillons. Et alors, il y a toute une littérature presque de quasi-légende sur ces médaillons qui soulignerait que, grâce à ce médaillon dans le portefeuille placé sur le cœur, la balle a été, la balle du soldat ennemi a été déviée finalement. Comme si, au fond, le fait de. C'est une belle symbolique pour toi, parce que, comme si le fait de pouvoir penser à quelqu'un, matérialisé par les lettres et par le médaillon, avait valeur de protection pour cette personne. Et il y a cette dimension, effectivement, tout à fait centrale dans ton livre,
peut-être
c'est le cœur du livre, que dans le fait de penser à quelqu'un, c'est au fond une façon d'être soutenu par cette pensée et en même temps de soutenir cette existence. Donc ce rapport entre soin, soi et pensée, et je crois le cœur de ton livre.
Le paradoxe, c'est que la pensée à quelqu'un a quelque chose d'ultime, à la fois dans la puissance, c'est-à-dire que ça va être très moteur, et en même temps dans l'impuissance, dans la souffrance. Mais c'est ultime aussi, tout simplement par ses expériences. C'est vrai qu'on sait très bien que les dernières pensées, comment dire, elles sont très souvent pour quelqu'un, que même dans la perte de la mémoire.
Oui, c'est ça.
Ce qui reste, c'est souvent des quelqu'un, pas des quelqu'un primitifs, c'est même très violent pour les autres quelqu'un qui se sont constitués. Enfin, on pourrait revenir sur cette dimension vitale. Et comme c'est à la fois, mais jusqu'au bout, c'est puissance et impuissance, c'est-à-dire c'est un acte, et en même temps, il faut reconnaître une limite. Par exemple, je peux penser tant que je veux à la personne que j'aime le plus, qui en ce moment est en train de passer un examen ou de courir un danger, etc. J'aimerais bien être avec elle, ou bien qu'est-ce qui lui arrive ? En fait, ça ne me fera pas être avec elle. Mais cette limite, dans l'absolu, il y a une limite, c'est comme ça, eh bien, fait que, pourtant, on a envie de dépasser cette limite. Et moi, il y a une double tentation qu'il faut absolument éviter, à mon avis. C'est la tentation... Enfin, on est cerné par deux dangers. Hein, la tentation de la superstition magique... Et en effet, là, le petit talisman, ou bien j'ai pensé à toi, c'est pour ça que ça s'est bien passé, ma chérie, etc. Bon, peut-être c'est un, voilà. Je, résiste à cette tentation magique, mais en même temps, je la comprends comme une hyperbole inévitable dans nos vies.
C'est ça.
Et ouais, même peut-être structurante.
Ça, exactement.
Y compris avec une origine du religieux, on n'en a pas parlé. Mais...
Ouais.
Donc il y a un être qui pense à nous tout le temps. Peut-être c'est inévitable, peut-être on ne pourrait pas vivre sans cette hyperbole, mais en même temps, il faut, à mon avis, la penser comme une hyperbole, rester dans les pensées, avec leurs limites. L'autre risque, qui est encore plus grave, mais aucune philosophie de la pensée ne peut s'en passer, c'est évidemment le risque de la folie. Et la folie, il y a une folie nécessaire, inévitable, là aussi, la folie primaire de l'amour, comme dit Winnicott, mais il y a aussi la folie qui menace la pensée parce qu'elle est vitale. Et encore une fois, la folie est la preuve que la pensée n'est pas un simple... pouvoir abstrait de connaissance, mais une dimension vitale de nos vies, sans perdre cette dimension de connaissance. Donc oui, il y a quand même ce danger de la folie.
On va peut-être du coup en rester là, si vous le souhaitez. Je terminerai juste par un passage, la lecture d'un passage du texte de Frédéric, qui s'intitule « Exercice de pensée », qui me semble justement ramasser un peu le propos. La pensée, écris-tu, n'est pas l'affaire purement individuelle et intellectuelle que l'on pourrait croire, puisqu'elle est prise dans une vie relationnelle, morale et sociale qui peut aller jusqu'à la détruire. Mais si tel est le cas, une autre conséquence s'ensuit qui rejoint en les déplaçant les exigences les plus antiques de la philosophie. C'est que le travail sur la pensée, s'il porte sur les relations qui la traversent, pourra transformer la vie et non seulement la vie des autres en pensant à eux, mais notre vie à partir d'un travail sur notre pensée, comme si ces pensées vitales appelaient et permettaient une vie pensée. Mais il y faut un travail. Je te remercie, Frédéric, pour cette belle occasion.
Merci à vous.